Salut à tous. Dans son premier podcast, on a surtout parlé de son dernier livre, 109, le récit bouleversant de sa maladie du sang. Mais sa carrière avant ce livre et cette maladie est riche, multiple, très variée. Ça valait donc bien un second podcast et qu'on reste un peu dans l'atelier de Jean-Christophe Chosy.
Dans l'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis.
Et on va maintenant faire un petit retour en arrière, Jean-Christophe. On va revenir un peu sur ta carrière foisonnante, on l'a dit, 35 ans de bande dessinée. Est-ce que tu te souviens ce qui t'a amené vers la bande dessinée?
Bah, il faut revenir à ma petite enfance. J'ai eu la chance d'avoir d'être entouré d'oncles divers et variés qui en lisaient, ou qui étaient collectionneurs même, ou qui peignaient et dessinaient. Mes trois oncles, c'est ça. J'en ai un qui dessine et qui peint. J'en ai un qui collectionne qui était collectionneur de bandes dessinées. J'en ai un qui en lisait beaucoup et qui les laissait disponibles chez lui. Et puis j'en ai un quatrième qui lui est critique de musique classique. Et tous ces gens-là m'ont amené beaucoup de choses. Et en tout cas chez eux, il y avait à lire les derniers Lucky Luke, Astérix, Is No Good. Et donc il y a plusieurs petits spots comme ça qui me renvoient à ça. La première BD que m'a acheté ma mère en revenant de son boulot. J'étais tout petit, moi, j'avais 7 ans, 8 ans, enfin, je devais être à l'école primaire. Et je commençais à lire, ouais, je lisais. Et elle m'achète les Dalton dans le blizzard.
Lucky Luke, donc.
Lucky Luke. Oh, alors je découvre ce truc-là, et celui-là, je l'ouvre et je le lis. C'est le mien, c'est le premier. Et je le lis une fois, et puis je le lis deux. Puis je le lis trois, et puis je le relis, je passe mon temps à le relire. Et donc elle m'en achète d'autres. Et je suis embarqué dans les histoires. Je suis dans le Klondike là avec Lucky Luke, j'ai froid avec les Dalton, je les suis dans leurs péripéties, et voilà, c'est le début d'un plaisir de lecture. Et donc j'ai bouffé tous ces trucs-là. Et puis à un moment donné, un petit peu plus tard, alors incapable de dire quand, mais j'étais encore petit, je tombe sur Gaston Lagaffe. Ça a été un autre choc, en fait. Alors, impossible à verbaliser à l'époque, mais le choc, c'était de m'apercevoir que, dans ce dessin-là, il se passait un truc qui ne se passait pas chez les autres.
Ça bouge,
c'est vivant, et j'en ai deux, trois, et ce n'est pas dessiné de la même manière. Et pourtant, c'est le même type. Il y a quelque chose dans Gaston Lagaffe qui passe son temps à exploser. Rien ne marche. Tout se barre en sucette tout le temps. C'est un peu inquiétant. C'est à la fois drôle, et mon caractère de gamin à cette époque-là rentre en phase directe avec ça. Et donc Franquin, ça a été mon premier choc esthétique, en fait. Je crois que ça a été Lagaffe. Et d'ailleurs, alors le truc dont je me souviens, parce que c'est presque proche, en quatrième, sur des Bristol que ma mère avait ramené du boulot, en cachette, pendant plusieurs mois, j'ai fait un petit bouquin qui doit comprendre une trentaine de pages, une quarantaine de pages, qui sont des petits strips en noir et blanc, alors qui sont inspirés très largement des idées noires de Franquin, qui sont des histoires qui tournent mal.
On imagine qu'en quatrième, t'es adolescent, t'as 12 ans donc, tu fasses plutôt du Gaston et des trucs rigolos, et tu fais des idées noires.
Alors moi je suis déjà tombé dans Fluide à cette époque-là, et je suis tombé évidemment parce que je lisais Spirou dans Le Trombone Illustré où ça a commencé, et ensuite dans Fluide Glacial où ça a continué, et cet esprit noir qu'il y avait chez Franquin, moi j'étais en phase totale avec ça. Et donc, en cachette j'ai fait ça, et puis c'était leur cadeau de Noël. J'ai offert ça, peut-être été une dévastation, une grande tristesse chez mes parents de voir que...
Ils t'ont direct envoyé chez le psy derrière.
C'est ça, oh mon Dieu, mon pauvre fils, comme tu souffres. Et ouais, moi je trouvais ça tout à fait réjouissant. Et
elle est où cette BD? Franchement,
elle est chez eux, ouais.
Ça doit être marrant à revoir.
Ouais, j'ai jamais pensé à faire des photos de ça. J'en ferai, tiens. Et puis je l'ai balancé. Il y a Dumonteuil qui fait ça sur les réseaux. Il balance ses dessins de quand il était tout petit, où lui faisait des histoires de cow-boy. Ouais, peut-être qu'il faudrait que je balance ça. Ouais, ça serait drôle.
Est-ce que quand tu fais ça, tu te dis, ah bah tiens, ça pourrait être un métier. Il y a quelqu'un finalement derrière le type qui fait les idées noires ou Gaston Lagaffe. Il y a quelqu'un derrière le type qui fait Lucky Luke.
Ouais, en quatrième, je me dis surtout que ça, j'aime bien le faire quand même. C'est plus sympa que les maths et la physique. Mais de là, imaginer que je pourrais en faire quelque chose, ça viendra un peu après, mais sans que ce soit, sans que j'y croie vraiment, quoi. Après le bac, coup de bol, je fais des études d'art appliqué. Un copain les a faites un an avant. Et il me dit, ouais, c'est génial, tu verras, tu fais plus de maths, plus de physique, tu dessines tout le temps, tu apprends des trucs que tu n'as jamais appris. Un peu par hasard, je tente le truc, et bon, ben, voilà, je continue mon apprentissage du dessin, la perspective, l'anatomie.
Mais avec quelle idée derrière ? D'en faire quoi de ça ?
Bah, de gagner ma vie, de trouver un métier, quoi. Le métier, c'était prof. Et
qu'on va en parler tout à l'heure, tu es prof. Hein.
Ouais, je suis prof.
C'est ton autre métier.
Et quand je me suis engagé là-dedans, l'idée, c'était évidemment de jamais terminer prof. Mon père était prof de français, je voyais corriger les copies tout le temps, c'était pas très engageant, mais bon voilà, je me suis retrouvé là-dedans. Et là, à ce moment-là, ben, j'ai dégagé un peu de temps pour dessiner vraiment. Et là, j'achetais déjà des bouquins qui avaient modifié mon goût fortement, quoi. Là, j'aimais déjà des auteurs qui sont pour beaucoup dans ce que je suis. Cabane, Loustal, Munoz, Pratt, Bricchia, enfin des grands auteurs du début des années 80, quoi. Et puis, comme je dessinais, j'ai fini par me dire, ce serait bien d'avoir un petit projet, quoi, un petit récit. Et donc, j'ai fait la démarche d'aller voir des éditeurs et j'ai contacté Futuropolis parce qu'ils proposaient des collections où, en 22 pages, on pouvait avoir un livre. Et au bout de deux propositions, ça a marché. Et c'était le début.
Ça s'appelait Vengeance, c'est ça ?
Ouais. Ça s'appelait Vengeance et c'était déjà une histoire noire. Je n'en lisais pas à l'époque, c'était déjà du polar, en quelque sorte. Mais j'avais aucune culture de polar du tout. Moi, je venais du fantastique, je venais de métal hurlant, je venais de... un peu à suivre, mais c'était surtout métal, moi, que j'adorais quand j'étais gamin. Et c'est le seul magazine dans lequel j'ai jamais été publié. Et donc Futuro, oui, qui a permis ça, et donc qui m'a permis de faire du polar sans le savoir, comme Monsieur Jourdain. Et puis après, d'en lire et voilà, d'entamer des collaborations plus tard...
Et c'était du noir et blanc, un dessin assez torturé, hein, non ?
Ouais, à l'époque, moi, j'étais fan, comme beaucoup de gens de mon âge, et comme souvent les adolescents, du dessin d'Egon Schiele, très très grand dessinateur de la post-sécession viennoise des années 10, en Autriche. Très très grand dessinateur figuratif, lui-même de personnages avec des physionomies un peu sèches, un peu torturées. C'était le cas de Béziers à la même époque aussi. Et oui, j'ai commencé avec du noir et blanc, avec le truc le plus compliqué, enfin le plus simple et le plus compliqué. Et donc j'ai été pris par Futuro, et donc j'ai eu la chance d'apprendre un peu le métier, de faire 4 livres chez Futuro, sous le parrainage de Robial et Sestac, qui sont mes mentors quoi, en bande dessinée. Un des plus grands graphistes français, et puis une autrice géniale de la nouvelle bande dessinée française.
Même si ça ressemblait pas du tout à du Florence Sestac, ce que tu fais.
Pas du tout, non, ça ressemblait pas du tout, mais... Mais quand même, Futuro, c'était une famille.
Elle t'a encouragé ?
Ouais. Alors, les premières signatures que je faisais, moi, j'ai regardé passer les gens. elle commençait à en signer pas mal, parce qu'elle venait de sortir de la guerre des boutons. Et donc là, elle commençait à voir arriver des gens pendant les dédicaces. Moi, je signais aucun bouquin. Et donc, elle, à côté, elle me disait, ouais, tu sais, ça fait 20 ans que j'en fais. Là, ça commence à peine à frémir. Voilà, l'important, c'est de durer. Et donc, j'ai essayé de suivre son conseil et de durer un peu.
Donc tu en as fait pas mal de la BD polar, roman noir, c'était un goût particulier, finalement c'est presque un hasard quoi.
Ça a été un hasard littéraire, puisque je n'en lisais pas. Mais en revanche, c'était une coïncidence parfaite en termes de désir d'histoire. Je te disais tout à l'heure que moi j'étais plutôt un lecteur de métal, et pourtant quand j'ai commencé à en faire vraiment de la bande dessinée, moi c'est pas là-dedans que je me suis reconnu comme auteur, je me suis reconnu justement dans les gens que j'évoquais tout à l'heure. Tardy, Munoz, Sampajo, Baru, évidemment, Cabane, des gens comme ça, des gens qui parlaient plutôt de maintenant, ici, et de comment la vie était dure, pas sur Orion du Centaure ou des galaxies lointaines, en bas de chez moi. Et je ne savais pas que c'était en relation avec le polar, je l'ai su juste après. Et donc ça a engagé un long compagnonnage avec des auteurs de polar, parce que je me suis vite aperçu, en lisant, en découvrant Manchette, en découvrant les grands américains, que, bon Dieu, il y avait un génie littéraire là-dedans, réel, et que ces gens-là, pour moi, étaient importants, que c'était la littérature, c'était de la littérature contemporaine, de plein pied avec ce qui était important dans notre époque. De quelle manière une littérature s'intéressait à ce qui déraillait, de quelle manière une littérature s'intéressait aux violences qu'on s'infligeait et qu'on subissait, qui pour moi, enfin c'est le moteur de ce que je fais. J'ai failli bosser avec Manchette, il est mort trop tôt, hélas. On a correspondu un peu. Alors c'était une rencontre épistolaire et téléphonique. À l'époque, il était agoraphobe, il sortait pas trop. Et donc on avait échafaudé l'idée de bosser ensemble. Et bon, voilà, il est mort trop tôt. Et j'ai eu la chance de, que Jonquet accepte, puis après Marc Villard, et puis...
Et tu aurais pu adapter Manchette, hein, d'autres l'ont fait, comme Tardy.
Alors j'avais pas trop envie d'adapter, moi. Enfin, j'aurais eu envie d'adapter si l'auteur l'avait fait lui-même. Parce que c'est une des grandes difficultés quand on bosse sur des textes qu'on a lus et qu'on a admirés, que d'imaginer que nous-mêmes, on allait pouvoir tailler dedans. Quand tu bosses avec Marc Villard, qui est un des grands stylistes de la nouvelle en France... Imagine que tu vas tailler dans son texte pour en retenir la substantifique moelle, pour revenir à la moelle. C'est pas évident. Et donc moi, j'étais ravi de bosser avec eux, de partager leur œuvre. Et donc, c'était génial que Jonquet accepte d'adapter La vie de ma mère, qu'il accepte d'adapter La vigie. C'était génial que Marc accepte d'adapter Rouge est ma couleur, et que lui-même choisisse ce qu'il avait écrit, méritait de rester et de ne pas être remplacé par de l'image.
Ce qui est étonnant, c'est que tu n'écrivais pas tes propres histoires, tu étais vraiment dessinateur à la base, mais tout en travaillant avec des romanciers qui, eux, ne sont pas des scénaristes de bande dessinée.
Exactement. Alors, bon, pour autant, Marc, comme Thierry, sont des gens qui ont bossé pour la télé, pour le cinéma, et donc c'est des gens qui savaient déjà scénariser. Ils ne connaissaient pas le médium bande dessinée, mais ils connaissaient quand même un rapport espace-temps, qui était celui de l'image animée, et ça n'a pas été très compliqué pour eux de passer au scénario de bande dessinée une fois comprise la mécanique. Alors ils l'ont fait tous d'une manière assez différente, c'est assez comique. Jonquet, c'est celui qui avait vraiment compris l'unité de la page. Et donc son scénar, c'était page 1, temps de cases, récitatif, dialogue, descriptif de la scène, et sur tout un bouquin, donc il était capable de dire ce bouquin, il va faire 72 pages. Avec Marc, c'était tout autre chose, mais il faisait des cases. Et donc j'avais 500 cases. Démerde-toi pour découper. Mais c'était génial. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de travail mutuel entre lui qui découpait son récit en unité case, et puis moi qui composais des pages à partir de ça. Et Pelot qui était encore autre chose, et qui lui imaginait vraiment des pages, sauf qu'il écrit tellement que tout ne peut pas rentrer dans une page, c'est pas possible.
Dans l'atelier BD de Jean-Christophe Chosy.
Pourquoi tu n'écrivais pas d'histoire à cette époque-là? C'est manque de goût, pas d'inspiration, finalement tu avais assez de travail avec tes scénaristes?
Tous mes bouquins chez Futuro, c'est moi qui les ai scénarisés, même celui avec Mats, dont j'avais composé l'histoire et que lui a dialogué. Les premiers bouquins chez Casterman, c'est aussi... alors il y a eu Peine perdue que Mats a scénarisé. Ensuite Parano, Béton armé, La peau de l'ours, c'est moi tout seul. Et à partir du moment où je me suis dit que ça m'intéressait vraiment de travailler dans le cadre d'histoire noire, je me suis dit que quand même, c'était plus intelligent d'aller chercher des gens dont c'était le métier que de les imaginer. Moi, je suis quelqu'un qui vient du dessin. Et donc, je peux produire des histoires, où la dimension affective et expressive est forte, mais une sophistication scénaristique, les meilleurs à les tenir, c'est quand même les écrivains. C'est pas un hasard si au cinéma, la plupart des polars sont des adaptations ou sont scénarisés par des auteurs qui en viennent du polar.
Et puis il y avait toutes ces bandes dessinées adaptées de romans ou avec des romanciers. Puis à côté, un vrai travail sur le dessin d'humour avec Fluide et avec des scénaristes plus d'humour. Tu citais tout à l'heure Zep ou Lindingre.
Zep, Lindingre, Anne, Barois, enfin bon. Alors ça s'est fait plutôt par compagnonnage. C'est-à-dire que je connaissais Larsenet, je connaissais Godelette, c'était des copains. À l'époque, on se voyait pas mal.
Il y a vraiment cet esprit des bouclages fluides, tout ça.
Ouais, je connaissais Delpierre. Donc ils m'ont fait des appels du pied, alors qu'ils voyaient bien que je faisais une bande dessinée qui avait rien à voir avec Fluide. Et à la fois, mais j'ai des admirations profondes pour certains des auteurs. Enfin, pour moi, Binet, c'est un grand auteur. Gossin, c'est un génie. Dans la grande époque, Fluide, c'est vraiment quelque chose de très important, quoi. Et puis, ils ont fini par me débaucher quand j'ai eu l'idée de me dire que, le personnage que j'avais dans Parano, chez Casterman, il était assez rigolo, en fait. Il me permettait de travailler sur les dysfonctionnements de la société actuelle, et en tirant ça vers le rire ou le sourire.
Et voilà. On se dit que finalement, ton style correspond assez bien au style humoristique.
Et bien parce que ça m'a permis là de déployer un dessin qui est plutôt mon dessin naturel, où j'étire les formes, les gros je les fais vraiment gros, les maigres vraiment très maigres, les nez vraiment très longs.
Le tien surtout.
Le mien, ouais. C'est un plaisir d'exagérer, hein, évidemment. Et la dimension caricaturale, c'est quelque chose d'assez fascinant pour un dessinateur. Et donc ça, c'était un dessin naturel, assez souple, assez organique, que je n'ai pas dans mon, ou beaucoup moins dans mon dessin de compagnonnage polar. Et ça a été un vrai plaisir de le faire pendant quelques années. Et surtout, le plaisir de travailler sur des histoires courtes qui permettent d'être dans un journal mensuel et de tester des petites choses différentes à chaque fois, graphiquement, chromatiquement, et de demander au scénariste d'y aller un petit peu plus fort contre le personnage. Et donc, voilà, plaisir, et puis plaisir d'équipe. Parce que quand on bosse chez un éditeur qui n'a plus de magazine, l'équipe, elle tend à se distendre tout de même. On voit les copains, mais il n'y a plus de retrouvailles au sein du journal.
Voilà. Et pourquoi tu le fais plus, ce travail de dessin d'humour? Tu aurais envie d'y revenir?
Il faut avoir de la matière, je crois. Il faut avoir de... Là, c'était motivé par l'idée que tout d'un coup, mon personnage, celui qu'on trouvait déjà dans Parano et dans Béton Armé, il avait pris quelques années, quand j'ai commencé Petite Nature, et qu'il était en couple, il avait des mômes qui étaient séparés après, et qui devait gérer une autre période de sa vie. Donc il y avait une espèce de temporalité. J'y reviendrai peut-être avec un Jean-Christophe vieux.
Quand tu seras grand-père.
Arthritique, grand-père. Ouais, il y aura peut-être quelque chose à faire. Mais bon, j'ai entamé d'autres choses qui me tiennent plus encore à cœur. Et puis j'ai une autre activité à côté qui fait que je ne peux pas surmultiplier les tours de passe-passe et les effets de couteau suisse.
Puisqu'on en parle de cette autre activité, c'est ton travail d'enseignant. Tu es professeur depuis très longtemps. Ouf. Dans une école qui s'appelait initialement à Paris, qui s'appelle toujours l'ENSAMA, qui est l'école Olivier de Serres, c'est ça qui s'appelle.
Exactement.
École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art.
Oui.
C'est une grande école, en fait.
Oui, c'est une des quelques très grandes écoles d'art appliqué, de design de parisienne. Ça a été mon premier poste pendant. Et je l'ai gardé pendant très longtemps. J'ai pris un vif plaisir à ce que je voulais absolument fuir au début de ma carrière d'étudiant.
Tu enseignais quoi ?
Eh ben, j'ai enseigné plusieurs choses. J'ai enseigné le dessin, j'ai enseigné l'histoire de l'art. Et en fait, l'essentiel de ma carrière s'est fait sur un poste d'enseignant de design graphique, en fait. J'ai formé des graphistes, des gens qui allaient faire de l'édition, qui allaient faire de l'identité, qui allaient faire de la typographie, enfin, toutes sortes de métiers en rapport avec le graphisme au sens large, à vrai dire.
Pour le coup, c'est une vraie vocation. Tu aurais pu vivre de la bande dessinée, puisque tu publies beaucoup, régulièrement.
Bah, à vrai dire, ça s'est fait comme ça. J'ai été agrégé en même temps que mon premier bouquin sortait. Le métier d'enseignant m'a dégagé un peu de temps pour continuer à travailler à côté, continuer à dessiner. Et c'est bâti un équilibre. Alors, au début, c'est un équilibre un petit peu de trouillard, quoi. Parce qu'à vrai dire, être fonctionnaire, ça a quelque chose de rassurant. On peut payer le loyer tous les mois, c'est reposant. Et puis ce qui s'est équilibré aussi, c'est le fait d'avoir en horreur l'idée de l'exclusivité d'un des deux métiers. N'être que prof, pour moi, c'est pas possible. Je me demande ce que je pourrais enseigner aux étudiants. Ce que je fais en bande de dessinée, c'est assez facilement transposable quand je leur parle aux étudiants de composition, dessin, trait, rapport de valeur, équilibre de forme, dynamique, équilibre, temporalité, cadence, etc., etc. Ça vient de mon expérience d'auteur. Si je n'étais que prof, je serais très malheureux. Et puis de l'autre côté, si je n'étais qu'auteur, je serais devenu dingue. Parce que c'est un boulot de dingue. On a le cul sur la chaise.
C'est hyper solitaire en plus.
Oui, on n'a aucune relation sociale, si ce n'est les week-ends en signature, avec les copains. Et c'est pas satisfaisant. Voilà, l'équilibre, c'est un équilibre instable. C'est un équilibre qui me contraint à bosser à peu près tout le temps. Voilà, qui fait que j'ai un peu sacrifié mes vacances dans cette affaire-là. Mais il faut croire que c'est que mon équilibre est satisfaisant de cette manière-là. Et j'en conçois un vif plaisir.
Il y a quelques années, après des décennies passées à enseigner dans cette école, l'ENSAMA à Paris, tu as déménagé à Lyon,
ouais.
Où tu es toujours enseignant.
Absolument, je suis passé d'une grande école à une autre grande école. Alors à Lyon, c'est une école qui s'appelle La Martinière Diderot, qui a plusieurs pôles, hein, parce que c'est un gigantesque complexe scolaire public. Et moi, j'ai la chance d'enseigner dans son pôle historique, design appliqué, et où je retrouve une fonction assez comparable, même si j'ai un peu dérivé vers la pratique plastique, ce qui est un vrai plaisir, et puis le graphisme au sens large, qui me permet de suivre modestement des gens qui voudraient devenir parfois encore graphistes. De temps en temps typographe, parfois encore vidéaste ou photographe, souvent auteur de bande dessinée, ou illustrateur ou illustratrice. Et donc c'est un gros plaisir, où de plus en plus j'ai l'impression de pouvoir former des gens en rapport direct, avec mon activité professionnelle d'auteur.
Dans l'atelier BD, Un podcast original proposé par Paul Satis.
On a beaucoup parlé dans la première partie du podcast de ton nouvel album, 109. On va parler d'une série qui est très importante pour toi et qui s'appelle Le Reste du Monde. On l'a dit, pendant assez longtemps, tu as travaillé avec des scénaristes ou avec des romanciers. Le Reste du Monde, c'est un travail cette fois où tu fais les deux. Tu es auteur complet, dessin et scénario. Je sais que tu n'aimes pas trop qu'on dise que c'est quelque chose de post-apocalyptique.
Alors,
même si c'est l'écroulement d'une société.
Oui, oui. Alors, j'ai appris, une fois que c'était sorti, que ça pouvait s'appeler comme ça. C'est une terminologie que je ne connaissais pas. Mais en effet, c'est un long récit d'effondrement.
Donc, on va rappeler le pitch. Hein, c'est une famille qui se trouve à la montagne.
Exactement. On suit au début un petit noyau familial, une mère, Marie, ses deux gamins, Hugo, Jules. Voilà, ils sont à la fin de leurs vacances d'été, dans les Pyrénées, les Hautes-Pyrénées. Ils sont dans un petit chalet, les gamins sont chez des amis, la mère nettoie le chalet avant de rentrer, reprendre le boulot, préparer sa rentrée, et voilà, tout d'un coup, basculement. Il y a un jour avant et un jour après. Effondrement dont on ne connaît pas l'origine. La montagne se casse la figure, en même temps qu'une tempête.
Un séisme
extrêmement violent, une tempête diluvienne. Et on l'apprend plus tard, petit à petit, on le devine, vraisemblablement, une secousse sismique a eu des effets bien au-delà de la vallée dans laquelle on se trouve, puisque, à la différence des récits catastrophes qu'en général on développe au cinéma ou en littérature, les secours ne viennent pas. Et donc le pitch de départ, c'est celui d'un effondrement d'environnement à grande échelle, dont on ne connaît pas les frontières, et frontières qu'on ne pourra pas dépasser. Faute de secours, très vite, plus d'essence, ou plus beaucoup, des vivres, voilà, qui vont petit à petit se faire de plus en plus éthiques. L'eau potable, il faut faire attention, plus d'électricité, plus de réseau, plus d'informations. Et donc, un petit groupe, donc à l'échelle d'une vallée, qui se trouve isolé de tout le reste, et qui petit à petit va s'apercevoir que l'isolement est beaucoup plus large que celui de cette vallée, posant une question générale que le titre porte, qui est de se demander ce qui est arrivé au reste du monde.
Voilà. D'où est venue cette saga ? L'idée de cette saga et l'envie de la raconter ?
Alors le fait que je la fasse, c'est venu d'un coup de pied au cul de la nouvelle...
Ça aide à avancer souvent.
Ah ouais, bah à chaque fois. Mais j'ai reçu un coup de pied au cul pour faire 109 en fait. Mon éditrice m'y a invité. Cordialement, généreusement et affectueusement. Et là, ça a été aussi un coup de pied donné par la même éditrice d'ailleurs, Christine Kam, enfin.
Christine aime bien te filer des coups de pied au cul.
Qu'est-ce que c'est
bien.
Que ces coups de pied au cul ? C'est pas possible. Et à un moment où justement, les collaborations polar, j'avais peut-être l'impression d'en avoir fait beaucoup et peut-être le tour, et où elle m'a suggéré, avec Benoît Mouchard qui venait de prendre les rênes de Casterman à ce moment-là, d'imaginer quelque chose auquel je tiendrais vraiment et que peut-être je serais capable de faire seul. Et donc j'ai gambergé fort en me demandant ce que j'avais vraiment envie de traiter. Et à vrai dire, moi, ce qui me traverse depuis très 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 longtemps, c'est l'état de dégradation de la planète. J'ai eu la chance ado de vivre dans une forêt où habitent encore mes parents. Et ça a forgé beaucoup de mon... Comment dire, d'une conscience très directe, très... comment dire, moins scientifique que vécu du rapport aux arbres, aux champignons, aux oiseaux, aux mammifères, à toutes ces choses auxquelles je suis viscéralement attaché et qui me mettent dans une colère noire, une désolation totale à constater ce qui arrive et qu'on ne m'arrêtera pas. Et donc ça s'est posé comme une chose, une situation générale à partir de laquelle il y avait absolument quelque chose à faire. Ça, conjugué avec une lecture qui m'avait mis sur le flanc quand le bouquin était sorti, qui est celle de La Route de Cormac McCarthy. Alors je vois que Larsonnet l'a adapté. Je me suis posé la question, moi, longtemps. Qu'est-ce que je fais avec ce bouquin-là ? Ça m'avait vraiment traumatisé. Je m'y étais totalement reconnu. Un effondrement total aussi, une catastrophe qui a eu lieu. On n'a aucune idée de ce que c'était, mais c'est pas très grave. Et un père avec son gamin, un caddie, qui juste essaie de survivre. Voilà. Le pitch de La Route. À une époque, j'ai pensé l'adapter, puis le fait que ça soit aux États-Unis, et puis surtout le fait que ce soit un chef-d'œuvre, m'a absolument dissuadé. Voilà, et donc je me suis dit, ben, on ne touche pas à ça, mais en revanche, l'impact a été fort. Et un jour, avec ma compagne, dans des vacances, dans les Pyrénées, qui est un peu mon nid d'origine, devant la beauté de la vallée, sur
on
la
chaise. On l'avait un peu deviné, parce qu'il te reste un bout d'accent.
Ouais, oui, oui. Je peux me lâcher. Oui, oui, je viens de là-bas.
Et donc vous êtes sur une chaise longue.
Chaise longue, une mauresque à la main, paysage somptueux et l'impression à ce moment-là d'une sensation que je vais garder dans tous les bouquins du reste du monde. Alors c'est une impression que les romantiques ont beaucoup étudié, dont ils ont beaucoup parlé, qui est celle du sublime. C'est devenu une expression facile. Ah, c'est sublime. Type, c'est très très beau. Et c'est devenu une expression vulgaire. Initialement, le sublime, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que c'est une beauté qu'on ne peut pas concurrencer et qui est à ce point énorme, à ce point surplombante, qu'elle vous écrase.
Et c'est ce qu'elle fait physiquement, là, dans le bouquin.
Et donc, ce que j'ai imaginé, c'est ça. C'est tout d'un coup, je tiens mon Far West, je tiens mes États-Unis. Il ne faut pas aller les chercher loin. Je vais rester cohérent avec ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je ne vais pas dépayser. Je vais me placer en France, dans un coin que je connais, et je vais imaginer que c'est là que ça se passe, que tout se casse la gueule, ici, et qu'on va se retrouver, nous, qui vivons dans un pays plutôt, où la vie est plutôt confortable et aisée, on va être bouleversés comme le sont d'habitude les gens qui vivent dans des pays pauvres.
Parce que c'est ça le nœud de cette histoire. On pourrait penser donc que c'est un récit post-apocalyptique. Que se passe-t-il après un écroulement d'une société? Mais derrière, il y a un vrai fond sociétal. Et c'est ça, en fait. Ce que tu veux raconter, c'est quoi? Que si c'est à nous que ça arrivait, on aurait envie de migrer. Et c'est nous qui deviendrions les migrants.
C'est un cas de figure. Il y a quelque chose d'entomologiste là-dedans. Je prends des petits personnages, ceux que j'évoquais tout à l'heure. C'est les petits insectes. Je les mets en laboratoire, dans un cas de figure où leur environnement direct s'effondre, où les liens sociaux qui unissent tous ces gens-là, tout d'un coup, sont énormément fragilisés. Il reste étroit tant que cette communauté a des choses à partager, des vivres, de quoi boire, un peu d'énergie pour se déplacer. Et dès lors que tout ça se casse aussi la figure, le lien social, à mon sens, se distend, s'effondre. Et la question, c'est de savoir ce qu'on devient à partir de ce moment-là.
Sociologique, mais en fait aussi politique.
Si on ne peut plus rester en France parce que c'est irradié, que les secousses ont été à ce point fortes que ça nous dégage et qu'on veut y aller au sud, ça renverse les phénomènes de migration dont on parle si souvent en ce moment et qui semblent tétaniser absolument le pays. Et donc ça avait quelque chose d'un peu amusant d'imaginer qu'après avoir rejeté les Arabes à la mer, ce soit eux qui nous empêchent de passer chez eux.
Comment tu as abordé graphiquement, alors il y a 4 tomes hein, du reste du monde, c'est un récit au long cours.
Pour
le moment, il faut représenter des paysages de montagne, c'est pas facile à dessiner la montagne.
Ouais, alors en l'occurrence c'était
surtout
aussi,
quand c'est le personnage principal, j'imagine.
Exactement, c'était l'un des enjeux du bouquin. Faire en sorte que ça me permette de prendre un peu de distance par rapport à tous les récits que j'avais abordés précédemment, et précisément parce que le contexte général, c'est celui, alors, d'un effondrement de société, certes, mais qui est occasionné notamment par un effondrement environnemental. Et donc cet effondrement environnemental, il fallait le dessiner, pas à la même distance que dans les polars que j'avais traités jusqu'à présent, où en général, on cadre serré, on est sur des personnages, éventuellement un peu de décor, pour caler une ambiance, mais on est très serré sur du personnage. Là, l'idée, c'est de dire que, quand un cataclysme vous tombe sur la figure, vous êtes immédiatement renvoyé à votre échelle. Et moi, c'est ce qui m'a marqué depuis les restitutions filmées de toutes les grandes catastrophes qu'on subit depuis l'effondrement du World Trade Center. Voilà. C'est filmé en direct, et ce à quoi on est renvoyé, c'est des fourmis qui se cassent la figure d'un immeuble qui nous renvoient à une humanité vulnérable, fragile, friable, qui est bien peu de choses. Même chose avec les tsunamis, où filmé de haut, on voit la vague s'avancer, emporter des bateaux, emporter des immeubles, emporter des fourmis humaines. Et donc, le reste du monde, ça nécessitait de prendre une distance et de dessiner enfin des choses qui n'existaient pas dans mon boulot jusqu'à présent. De la nature, du paysage, et non pas du décor, paysage, et d'en faire, comme tu le dis, le personnage principal du premier livre en tout cas, puisque c'est lui qui enclenche le récit.
Avec des grandes, grandes pages, parfois des doubles pages. C'est du paysage, comme tu disais, pas seulement. Hein, ça peut être aussi des carcasses, carcasse d'avion.
C'est un nouveau paysage.
Oui, des paysages de désolation.
Exactement, des paysages d'après la catastrophe. Alors, ils sont là, évidemment, pour créer une ambiance. Ils sont là aussi pour dire que ce sont ces paysages qui, maintenant, ont la maîtrise de la situation. Ça me permet aussi de parler de distance. Parce qu'une double page avec des tout petits personnages qui doivent se déplacer sur toute la largeur de la double page, ça nous dit aussi qu'il n'y a plus d'essence. Et que tout va devenir fatigant à traverser. Le rapport qu'on a à l'espace, à partir d'une catastrophe de cet ordre-là, n'est plus du tout le même. Nous, on peut se déplacer en bagnole, on peut prendre un avion, on peut prendre un train, un TGV, en 2 heures Paris-Lyon, très bien.
Oui, parce quasiment un album à chercher un TER qu'ils ne vont jamais trouver.
Ah ben ça, le TER, il n'y en aura plus. Et puis, passer à la vallée d'à côté, c'est du boulot. Il faut y aller à pied. Le vélo en montagne, c'est quand même pas pratique. Et donc, on est renvoyé donc, à une spatialité différente et un rapport corporel très différent aussi.
Et puis, il y a aussi dans cette histoire, une histoire large d'une société en train de s'écrouler, puis une histoire plus intime d'une mère et de ses deux garçons.
Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir les deux échelles. Donc, l'échelle terrestre, celle du paysage qui dicte tout et qui nous survivra bien après notre mort, et puis celle des petites fourmis qui, là-dedans, se débattent, qui doivent faire front face à des turbulences sociales qui les font se mettre à l'écart et à l'abri de la violence qui se dégage, et puis qui vont voir comment on s'adapte à la situation, et qui, cellule familiale elle-même, qui sera soumise à des tensions internes, avec des gamins qui grandissent, qui veulent trouver leur autonomie.
Il y a 4 tomes pour l'instant du reste du monde. Pour le moment est important, puisque donc, ce que tu laissais entendre, c'est que cette saga n'est pas terminée.
Alors moi, ce que j'en pense, c'est que les 4 qui sont sortis sont une boucle déjà autosuffisante. On commence à un point de catastrophe, et une respiration est donnée dans le 4e, mais pas une fin définitive. Et à vrai dire, tous les lecteurs que je vois et à qui j'ai signé des bouquins me posent exactement tous la même question. Ah mais c'est pas possible. Et ça s'arrête pas là.
Bon alors, ça s'arrête pas là.
Moi, j'ai envie de les suivre. Hein. C'est des personnages que j'ai créés, qui sont des personnages de fiction certes, mais un peu alimentés par des caractères et des gens ou des enfants que j'ai bien connus.
Les tiens donc.
Et ouais, les miens et puis d'autres et puis on balance pas mal d'affects personnels dans ces personnages-là. Et j'ai envie de savoir ce qui leur arrive. Parce que les 4 premiers bouquins sont des bouquins durs, je crois. Les personnages sont soumis à vraiment rude épreuve, socialement, politiquement, militairement, environnementalement. Il faut trouver à bouffer, il faut trouver à boire, il faut pas se faire attraper par des cinglés, il faut pas tomber malade, il faut faire gaffe à l'épidémie. Juste avant le Covid, tout ça, je l'ai balancé à large dose. Alors on s'apercevra que la jeunesse s'en sort. Je mets un billet sur cette jeunesse-là en espérant qu'elle arrivera à se sortir de la situation pénible dans laquelle on l'a projetée. Et à vrai dire, la question que je me pose maintenant, c'est celle qu'on se pose tous en l'état actuel. C'est comment on arrive à se donner des perspectives. On sait très bien que c'est mal barré. On s'aperçoit que pour l'instant, rien n'est fait. Les gens sont alertés, ceux qui pourraient prendre des décisions et qui ont le pouvoir de le faire ne le font pas parce qu'il y a un court-termisme général et que les intérêts économiques priment. Le mur, on est déjà dedans en fait. On l'a déjà touché et on est en train petit à petit de s'écrabouiller dedans. Moi, mon drame terrible tous les jours, c'est de savoir comment je peux garder une attitude positive et avec des perspectives ouvertes avec tous ceux qui m'entourent en fait. J'ai fait des enfants, j'ai envie qu'ils soient heureux, j'ai envie qu'ils aient une vie dans laquelle il se passe un tas de choses, dans lesquelles eux-mêmes vont trouver des perspectives. Et on s'aperçoit qu'à une échelle très courte, c'est des échelles de décennies, on va vivre beaucoup plus mal qu'à l'époque actuelle, et qu'on ne sera pas sauvé par la technologie, ou très très peu. Et à vrai dire, c'est des scientifiques eux-mêmes qui nous exposent cette situation-là. Et donc scénaristiquement, narrativement, et en tant que être humain, père, mari et ami, je me pose ces questions-là. Et donc je suis en train d'essayer de structurer des récits qui vont pouvoir me permettre de finir véritablement le reste du monde en me posant la question des conditions de ce que serait une utopie dans ces circonstances-là.
C'était pas le projet de départ, ou ça, cette partie-là dont tu es en train de parler, celle à laquelle tu réfléchis, était déjà prévue quand tu as commencé le reste du monde ?
Non, pas du tout. En fait, alors c'est très curieux la manière dont le reste du monde est arrivé. Le reste du monde, d'abord, ça a été un livre. Et à vrai dire, pour moi, il était autosuffisant, avec une belle fin, en suspens total. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé de l'autre côté de la vallée. Je trouvais ça assez beau. Et au fur et à mesure que je rends les pages, l'éditeur me dit « Ah ouais, quand même, c'est dur. on va avoir envie de savoir quand même. » Et puis, évidemment, moi aussi, j'avais envie de savoir. Et donc, un deuxième bouquin. Je fais le deuxième bouquin qui aurait pu aussi se suffire. Il y a une rupture assez violente et assez nette à la fin du second, sur laquelle moi j'aurais pu rester aussi, mais avec l'envie évidemment de savoir ce qui se passe. Et donc en fait, les 4 premiers bouquins ont été écrits au rythme de la catastrophe en fait.
Et c'était pas écrit à l'avance ?
Pas du tout.
Ah ouais, c'est assez étonnant, parce qu'il y a une cohérence en fait évidemment entre
Alors
les 4.
Il y a une cohérence dans les 2 derniers. C'est-à-dire que quand j'ai fini le second, je me suis dit qu'il me fallait un peu de place. Parce que là, je voyais un peu où les choses pouvaient arriver. Les deux premiers ont été pensés séparément. Les trois et quatre sont arrivés à la suite, non pas de manière impromptue, mais parce que les personnages prenaient, ils avaient une consistance. On avait envie de voir ce qu'ils donnaient. Et puis que la situation créée, c'était quand même un bel écho avec ce qui nous arrive. Alors, un peu d'anticipation, mais à vrai dire, comme on est toujours bousculé par la réalité. Et voilà comment petit à petit les bouquins se sont succédés.
Si je mets 109 de côté, le reste du monde, c'est important hein, pour toi.
Oui, oui, pour moi, c'est vraiment important. Et à vrai dire, quand je le faisais, j'avais du mal à imaginer qu'existe un autre sujet. Je ne vois pas sur quoi on peut travailler d'autre, en fait. Alors, le 109 m'a montré qu'on pouvait travailler sur autre chose, mais en l'occurrence, tu l'as très bien dit au début, c'est aussi un effondrement. Un effondrement avec une remise sur pied. Voilà, un long tunnel noir et au bout une petite lumière, mais c'est aussi un effondrement. L'échelle diffère, la nature de du récit diffère aussi, fiction, réalité, mais le reste du monde c'est important pour moi parce que c'est très exactement, ça correspond très exactement à l'urgence de la situation dans laquelle on se trouve à échelle terrestre. Quel est l'autre sujet ? Voilà. Alors il y en a plein d'autres évidemment sur lesquels on peut travailler, mais sans celui-ci, les autres n'existeront plus.
Et après 109 et le particularisme graphique dont tu parlais dans le précédent podcast, là tu reviens à ce que tu fais habituellement, c'est-à-dire les grands dessins à l'aquarelle.
Je vais revenir à l'aquarelle. Alors, en revanche, je vais essayer de retirer l'enseignement de Par la forêt. Par la forêt, pour ceux qui l'ont lu et l'ont regardé de près, se sont sans doute aperçus que le contour disparaissait la plupart du temps. Et c'est un bouquin intégralement en couleur. Il n'y a pas de contour noir ou gris, comme c'est encore le cas dans le reste du monde. Et je pense que je vais repartir de ce point de départ en essayant de faire en sorte que si dessin il y a, ce sera de la couleur.
Tu l'as commencé concrètement, cette suite du reste du monde ?
Je l'ai storyboardé, oui. Je suis en train d'y travailler. Et je vais commencer à la crayonner bientôt, oui.
Avec à nouveau plusieurs tomes ?
Pour l'instant, ce que j'imagine... Alors, mon intention, c'est vraiment d'en finir. Il y aura un dernier livre qui s'achèvera dessus, alors avec sans doute une projection temporelle un peu longue. Mais pour l'instant, ça maturerait assez bien sur deux livres.
Dans l'atelier BD de Jean-Christophe Chosy.
On arrive au terme de cet entretien. Donc le prochain projet, on l'a compris, c'est celui-là. On va terminer avec les petites questions rituelles, Jean-Christophe. Alors, quels sont tes choix ? On va commencer par un film ou une série, soit qui t'a particulièrement marqué ou que tu as envie de partager avec nous.
Alors, film ou série, alors pour rester dans l'ambiance du reste du monde. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, je pourrais citer des chefs-d'œuvre. Moi, il y a un film qui me tient depuis que je suis gamin, c'est La Nuit du Chasseur. Film extrêmement connu et film unique de Charles Laughton avec Mitchum, qui est une espèce de parabole biblique. Alors, oui. Un athée qui vous parle de paraboles bibliques. Sur...
Oui, ça revient souvent d'ailleurs, références bibliques pour l'athée que tu es.
Dans le reste du monde aussi, il y en a plein, évidemment. Alors, elles sont souvent ironiques. Hein, mais... et donc, ouais, c'est une espèce de film boussole, très artificiel, très profond, à la limite de la farce, et parfois du cinéma fantastique ou du polar. Enfin, c'est pour un grand, grand chef-d'œuvre, voilà, mais pour le coup, c'est un chef-d'œuvre. Mais récemment, il y a une petite série de zombies, tiens. Parce qu'en l'occurrence, dans le reste du monde, il n'y a pas de zombies, les zombies, c'est nous. Ils ne s'entrebouffent pas, du moins littéralement. Une petite série de polars sur Netflix, pas mal, dont on a assez peu parlé, et que moi j'ai beaucoup aimé, parce qu'elle est assez réaliste, c'est Black Summer. Et il y a deux saisons, au-delà du principe, évidemment, fictionnel et surnaturel du zombie, on est dans un réalisme de situation où les choses vont très vite. On n'a pas le temps de s'attacher aux personnages parce qu'ils disparaissent assez vite et où on est tenu dans un effroi réel, pas avec les fictions hollywoodiennes un peu neuneux et puis avec des ficelles énormes, mais on a vraiment l'impression de vivre avec les gens qui subissent ce genre de choses. Et moi, j'ai trouvé que c'était plutôt une belle réussite.
Redis le titre.
Black Summer, l'été noir.
Une chanson ou un album ou une musique que tu écoutes souvent, alors, qui t'a marqué. Il y a beaucoup de choses, évidemment. Surtout que tu viens un peu du rock.
J'en écoute plein. Alors, moi, j'ai un groupe dont je m'aperçois qu'il tient dans la durée. Il m'a tétanisé pour son premier disque et j'attends toujours ses disques avec impatience. Ils ne m'ont jamais déçu. C'est un groupe anglais qui s'appelle The Jesus and Mary Chain, avec deux frères qui ont passé leur temps à se castagner, à se taper dessus, et qui ont imaginé une formule assez saisissante de télescopage de la mélodie et du bruit. Ils ont sorti un premier album qui s'appelait Psycho Candy, qui est un chef-d'œuvre de cette chose-là, et ils n'ont cessé de produire des disques tout le temps en ballant. Donc ce serait très difficile d'imaginer en extraire un morceau, mais c'est une musique qui a été la bande-son de ma vie, je m'aperçois. Ils sont à peine plus vieux que moi, et ils accompagnent ma vie. C'est pas ce que j'écoute le plus en ce moment. Il y a toujours des petits coups de fouet. L'an dernier, c'était un groupe qui s'appelle Amil and the Sniffers, avec une chanteuse australienne, blonde, une espèce de terreur, qui nous repropose AC/DC punk, chanté par une fille.
AC/DC punk,
ouais,
ça l'envoie un peu.
Ah, ça envoie du pâté. Je veux dire, elle est accompagnée par des types qui ont des gueules d'abrutis complets, et ça vous ramène les oreilles. C'est génial. Amil and the Sniffers.
Tu disais que pendant que tu étais malade, tu ne pouvais plus écouter de musique.
Ouais, j'en ai pas écouté du tout. Si. Attends, qu'on y est dans les confessions. Je peux ?
Bien sûr.
À la suite d'un malentendu sur le nom d'un médicament qui était censé me faire pisser, qui s'appelle du Lasilix, et que les soignants, les infirmiers appellent du Laz. Et donc moi, dans mon potage morphinomane du moment, j'ai dit, ah tiens, comme le bal des Laz de Polnareff, qui est une chanson que je connaissais de loin, je connais le titre, mais pas vraiment le morceau. Première surprise, ils connaissent pas Polnareff, ils n'ont aucune idée de savoir qui est ce gars-là, et alors le bal des Laz encore moins. Par curiosité, du fond de mon lit, je me le suis mis, et je l'ai écouté. Et je l'ai écouté en boucle pendant des jours. C'est une chanson d'une profonde mélancolie qui était exactement mon état d'esprit.
Une chanson étonnante, hein, qui raconte vraiment une histoire, sans refrain.
Ouais, c'est merveilleux. Musicalement, c'est incroyable. Le texte est phénoménal, et d'une noirceur terrible. Ouais, ça m'a bouleversé. Bon, voilà. Bon, c'est le seul truc que j'ai écouté pendant quasiment 2 ans.
Et puis enfin, un livre ou une bande dessinée, ou les deux.
J'aurais envie de citer, il y a deux bandes dessinées que j'ai lues, j'en lis beaucoup moins qu'avant. Il y en a deux que j'ai lues quasiment en même temps, qui sont du même éditeur, et qui sont des beautés. Je pourrais en citer d'autres. Hein. Par exemple, Hélène Usdin, il n'y a pas très longtemps, a sorti un René des Bois Dormants, qui a été une claque pour moi. C'est une bande de dessinées peinte avec un récit fleuve génial. Mais en tout cas, récemment, les deux trucs que j'ai lus et qui m'ont mis sur le cul, c'est un bouquin d'un auteur qui s'appelle Valfray, qui a fait un petit bouquin qui ressemble à un petit pavé, qui s'appelle 1,5. C'est sorti chez Frémok. C'est une merveille absolue de poésie et de désenchantement par rapport au monde qui nous entoure. Donc évidemment, moi, je m'y suis parfaitement reconnu. C'est une merveille absolue. Et puis un bouquin dont on a peut-être un petit peu plus parlé, toujours chez Frémok, qui s'appelle La véritable histoire du Père Noël, La véritable histoire de Saint-Nicolas, de Thierry Van Hasselt. Donc Saint-Nicolas vient venger les enfants de ce monde que ce monde agresse. C'est magnifique, c'est très très beau, c'est très bien non écrit, et c'est magnifiquement dessiné.
109, le livre de Jean-Christophe qui raconte sa maladie, est publié chez Casterman, ainsi que les 4 épisodes de sa série post-apocalyptique Le Reste du Monde. L'œuvre de Jean-Christophe Chosy compte des dizaines d'albums chez Casterman, chez Fluide Glacial, chez Futuropolis. Merci beaucoup Jean-Christophe de nous avoir accueillis dans ton atelier.
Tout le plaisir était pour moi.
Vous avez de la lecture, et ça tombe bien, parce que ce qui est important, vous le savez, c'est de lire des BD.